Vous êtes avec SBS French.
Europa Voice numéro 125. Et comme à l'habitude, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
125, ça commence à faire. Hein. Tout est venu d'une idée. Comme ça, on a discuté. Et si on parlait d'Europe, et ben voilà, 125 épisodes après, on parle toujours de l'Europe, toujours au cœur de l'actualité. Et cette fois-ci, l'Union européenne qui, eh bien, décide d'engager les discussions avec deux pays quant à l'intégration de ces deux pays au sein de l'Union européenne. Alors, on est loin de l'intégration des pays, mais on parle de l'Ukraine et de la Moldavie. Alors, c'est important parce que ça fait un petit moment qu'on en parlait du fait que, est-ce que il y aura une procédure accéléré pour l'Ukraine, bah, il semble que, en tout cas, il y a une procédure accélérée qui peut se profiler à la fois pour l'Ukraine, mais aussi pour la Moldavie.
La Commission européenne, Christophe, a en fait donné un avis favorable pour l'ouverture des négociations avec et donc la demande d'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie. Et donc, effectivement, il y a quelque chose de plus rapide qui semble être plus rapide que pour les précédentes. Adhésions, mais il faut le préciser aussi, c'est un avis favorable, mais qui maintenant doit être approuvé par les 27 à l'occasion du prochain sommet qui se tiendra.
Et c'est là où ça risque d'être difficile, parce que vous allez nous le dire, faut qu'il y ait l'unanimité.
Exactement, les 14 et 15 décembre prochains, ce sommet se tiendra évidemment à Bruxelles. Donc effectivement, la première partie du processus a semblé être très rapide, accélérée. Rappelons-le, hein, pour nos auditeurs d'Europa Voice, en juin 2022, l'Union européenne avait accordé à l'Ukraine le statut de candidat. À ce moment-là, c'était un geste qui était extrêmement symbolique, parce que c'était quelques mois après le début de l'invasion russe. Et d'ailleurs, elle avait fait l'Union européenne pour l'Ukraine, mais elle l'avait fait aussi pour la Moldavie voisine à cette époque-là. Et puis effectivement, entre ce statut de candidat et cet avis favorable pour l'ouverture des négociations, c'est allé très vite, il y a eu un peu plus d'un an, mais maintenant il va falloir cette unanimité, et surtout c'est pas gagné, parce que des pays qui sont comme ça dans l'antichambre de l'intégration à l'Union européenne, il y en a tout un paquet. Mais une fois qu'on est, Christophe, dans cette antichambre, il peut se passer encore beaucoup de choses. Et juste pour donner un petit ordre d'idée, dans les années 2000, on a eu un élargissement extrêmement important de l'Union européenne. On a eu Chypre, on a eu Malte, on a eu tout un paquet de pays d'Europe de l'Est, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Pologne.
Puis il y avait des candidats, la Turquie aussi qui était candidate, qui pose une autre question.
Mais il y avait tout un paquet de pays qui sont entrés dans l'Union européenne. Et puis après cette série d'adhésions, il y a eu une espèce d'arrêt, parce qu'il y a toujours cette question qu'on traite souvent d'Europa Voice entre l'intégration, une meilleure intégration, un meilleur approfondissement et un élargissement. Et donc là, en ce moment, à l'heure où on se parle, on enregistre, il y a tout un paquet de pays qui attendent toujours, qui ont le statut de candidat, mais qui ne sont pas encore membres de l'Union européenne. Et puis, il y a des adhésions et des discussions, j'allais dire, comme vous l'avez mentionné, qui sont stoppées. C'est le cas notamment de la Turquie. Donc effectivement, on peut attendre de ce sommet des 27 une réponse favorable, quoique il y a encore la position de la Hongrie. Mais ça ne veut pas dire que c'est fait.
Ouais, loin de là. Si on s'attarde juste un petit peu sur la question de la Moldavie, parce que l'Ukraine, on en a énormément parlé. La Moldavie, c'est un pays qui est à côté, qui est dans la région, mais qui est aussi impacté par cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, puisqu'il y a énormément de tensions également avec la Biélorussie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on veut aussi tendre un peu la main peut-être à la Moldavie, en se disant bon, vous êtes inclus dans la problématique, et peut-être on vous met un petit peu le pied à l'étrier de ce côté-là aussi, en même temps que l'Ukraine.
La question moldave, Christophe, elle est intimement liée à la question ukrainienne. Et la candidature de la Moldavie, elle est liée aussi à la candidature ukrainienne, et elle est liée aussi à la menace russe qui pèse sur la Moldavie. Donc c'est vraiment, j'allais dire, sous le même parapluie que l'Union européenne a fait ce geste tendu à la fois pour l'Ukraine et pour la Moldavie. Parce que si, encore une fois, il y a pour ces pays de l'Est qui sont des pays tampons, il y a deux choix. Hein. C'est soit d'être ingéré sous influence du voisin russe. On avait parlé d'ailleurs dans certains pays limitrophes de la Russie, de cette ingérence de plus en plus présente, de moins en moins cachée. Donc c'est soit aller du côté russe, soit rejoindre le bloc de l'Union européenne. Et donc c'est pour ça que l'Union européenne avait à la fois symboliquement accordé ce statut de candidat à l'Ukraine, mais aussi à la Moldavie voisine.
D'accord. Et pour l'Ukraine, qu'est-ce que ça veut dire si l'Ukraine entre donc dans ce statut de candidat par rapport à relations avec l'OTAN, par rapport aux relations avec les États-Unis? Est-ce que ça va pas mettre un coup d'arrêt, mais est-ce que d'un seul coup, du fait que l'Union européenne s'intéresse à ces pays-là, peut changer également la donne du côté américain?
D'abord, avant de répondre à cette question, il faut signaler que encore une fois, c'est pas gagné.
Non, loin de là. Mais même si on parle juste de la demande d'adhésion, de cette entrée dans ce club de demande d'adhésion, est-ce que ça change quelque chose par rapport aux Américains ou pas, et à l'OTAN ou pas?
Bah, ça change dans le sens où où l'Ukraine ferait partie d'un ensemble géopolitique ami, ou en tout cas qui a une entente forte et des coopérations avec, en l'occurrence, l'OTAN et l'Union européenne. Donc ça permettrait aussi, par exemple, aux Américains d'avoir de manière différente des bases avancées sur certains territoires ukrainiens si l'Ukraine faisait partie de l'Union européenne. Après, ça tendrait encore un peu plus, certainement, les relations à la fois entre l'OTAN, la Russie et l'Union européenne et la Russie, parce que la Russie, évidemment, verrait ça verrait ça comme une provocation de plus en plus de pays qui feraient partie intégrante de l'Union européenne. Donc, j'allais dire, c'est un jeu dont on n'a pas encore toutes les règles et dont on ne connaît pas encore toutes les conséquences. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens en termes de coopération avec l'OTAN, que l'Ukraine fasse partie ou en tout cas soit maintenant officiellement candidate pour intégrer l'Union européenne, au même titre, encore une fois, que la Moldavie. Et puis, Ursula von der Leyen, Christophe, ne l'oublions pas, a aussi fait des gestes même pour à la fois la Géorgie et la Bosnie. Donc, il y a beaucoup de choses qui avancent et qui ont été, d'une certaine façon, accélérées par cette guerre en Ukraine.
Et est-ce qu'on en connaît la réaction de Moscou? Est-ce qu'on sait que ce qui s'est dit, est-ce qu'il y a eu une réaction officielle? Parce que, vous l'avez dit il y a quelques instants, ça change la donne aussi pour Moscou.
Pour l'instant, il y a ce qui est assez surprenant d'ailleurs, Christophe. Hein, la réaction de Moscou est très peu audible sur ce sujet-là. Je pense qu'il y a aussi, de manière assez pragmatique de la part de Vladimir Poutine, l'attente de ce sommet européen en décembre, parce qu'encore une fois, rien n'est fait. Et donc, ma petite, perspective sur ce sujet-là, c'est que il y a des pressions qui se font en coulisses en ce moment de Moscou sur certains membres de l'Union européenne et je pointe du doigt la Hongrie, justement.
On pointe le doigt assez souvent. Là,
voilà, non mais clairement, et d'ailleurs il n'y a pas que la Hongrie, là on parle de la Hongrie parce que c'est le cas le plus évident d'opposition d'une certaine façon, parce que la Hongrie dénonce aussi le fait que cette adhésion, cette ingérence pour la Hongrie de l'Union européenne dans les affaires ukrainiennes, c'est une provocation pour Moscou. Donc ça, c'est la contestation évidente. Mais même du côté français, ça peut paraître assez surprenante, mais il a fallu convaincre par exemple la fédération, la FNSEA, donc qui s'occupe de toutes les questions agroalimentaires, céréalières, etc., parce que si l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, comme l'Ukraine est quand même un des silos à grains de cette zone géographique là, et ben par exemple cette fédération professionnelle là, encore une fois ça paraît anecdotique, mais voyez d'un très mauvais œil, parce que après évidemment on va retomber sur les mêmes problématiques, et là on est loin de la guerre, hein, Christophe, mais les mêmes problématiques que le plombier polonais sur les questions de concurrence déloyale, de baisse des prix, etc. Donc voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois les entre guillemets ennemis évidents de cette adhésion de l'Ukraine, comme l'est la Hongrie, mais il y a quand même en interne, au sein de l'Union européenne, des réticences et des groupes de pression, des groupes politiques qu'il va falloir calmer, parce que ce qu'on veut absolument éviter du côté de Ursula von der Leyen, c'est d'avoir une intégration précipitée qui entraînerait encore plus de complexité au niveau du fonctionnement de l'Europe. Parce qu'il faut le rappeler, Ursula von der Leyen, si elle ouvre la porte et les fenêtres à l'intégration de plusieurs autres pays, Jean-Claude Juncker, son prédécesseur, avait clairement dit que maintenant il n'était plus question d'avoir d'autres pays qui entreraient dans l'Union européenne. On était déjà beaucoup il allait falloir approfondir. Alors, Jean-Claude Juncker, il n'avait pas encore les questions de Brexit, la guerre en Ukraine, etc. Mais vous voyez, déjà en termes de, j'allais dire, de philosophie politique, de prospective politique, pour Juncker, le prédécesseur de la présidente de la commission actuelle, Ursula von der Leyen, il n'était déjà pas question d'élargir. Donc, Ursula von der Leyen doit aussi, d'une certaine façon, faire attention que, au-delà du conflit avec la Russie, cette adhésion, elle soit validée, elle soit complètement acceptée par l'ensemble des 27.
Et comprise,
évidemment, et comprise.
Allez, on va partir au Portugal. Vous écoutez le podcast d'Europa Voice, deuxième partie, donc direction le Portugal. Et il y a du rififi au niveau politique, au niveau portugais, surtout au niveau du Premier ministre.
Oui, il y a un scandale de corruption, comme si l'Union européenne et les pays européens avaient besoin de ça pour créer encore un peu plus de défiance.
Comme à l'époque.
Voilà, entre les citoyens et leurs décideurs politiques. Non, on a le Premier ministre portugais, le socialiste António Costa, qui a annoncé qu'il présentait sa démission après un scandale de corruption. Il avait un petit peu temporisé, mais finalement l'imbroglio judiciaire a fait qu'il était directement touché, et donc il n'a pas eu d'autre choix. Et d'ailleurs, c'était dans sa déclaration, il a dit évidemment, là je le cite, hein, évidemment je présente ma démission. Donc du rififi au niveau de l'Union européenne, et puis aussi du rififi dans un des seuls États clairement encore socialiste de gauche, et donc certainement un autre État qui passerait à droite sur l'échiquier politique de l'Union européenne.
Ouais, et le Portugal, ça fait un moment que c'est un pays à gauche quand même. C'est un pays qui était enclin quand même pas mal à gauche au niveau politique.
Oui, c'était un pays à gauche. Le Premier ministre Costa, lui, il est au pouvoir depuis 2015. Donc ça va faire maintenant 8 ans. Il avait réussi d'ailleurs à conserver, Christophe, le pouvoir en 2019. Mais déjà, il y avait des bruits qui courent actuellement, qui disaient que la montée et la percée de la droite faisaient que, après ces élections, les élections européennes de l'année prochaine, l'actuel Premier ministre s'en irait sûrement au niveau de. Enfin, prendrait un poste au niveau européen, et donc la droite certainement retournerait au pouvoir plus tôt que prévu. Mais effectivement, encore une fois, c'est un pays de plus qui passe à droite. Et puis, c'est aussi un pays. J'allais dire qu'il n'avait pas besoin de ce scandale de corruption, parce qu'il y a déjà des tensions sociales qui sont importantes au Portugal. Il y a des manifestations régulières. On parle souvent dans cet Europa Voice des gilets jaunes. Alors c'est pas au même niveau, mais il y a quand même des manifestations régulières pour des questions d'éducation, de santé, de justice,
de tourisme.
Évidemment, parce que ça devient un petit peu une destination prisée et surconsommée. Donc voilà, le Portugal qui est dans, j'allais dire, pas dans une impasse, mais en tout cas qui se retrouve dans une situation très peu confortable quand un Premier ministre est accusé de corruption et doit démissionner.
Il va se passer quoi, hein? Des élections? Comment ça se passe, le système politique portugais qu'on ne connaît pas forcément?
Non, alors effectivement, au début, encore une fois, le Premier ministre Costa, lui, aurait préféré nommer quelqu'un d'autre et un petit peu dire, voilà, moi je me mets de côté, je quitte la vie politique, et puis on nomme un autre Premier ministre. Ça n'était pas spécialement une solution qui a été accordée par le président, et même pas vue de manière très positive par les autres partis, parce que on avait eu peur un peu qu'ils mettent en place une espèce d'homme de paille et qu'il soit quand même toujours derrière. Donc le président a dissous, ça c'est tout neuf, a dissous le Parlement et va convoquer des élections législatives anticipées, c'est-à-dire que les Portugais vont retourner aux urnes, et ce sera en mars prochain, et donc ils éliront un nouveau parti majoritaire ou une coalition pour gouverner le Portugal. À préciser aussi que la coalition actuelle était une coalition assez ancrée à gauche, parce qu'il est socialiste, Costa, mais il a dû prendre avec lui les communistes justement pour avoir cette majorité au Parlement, et donc on risque de voir cette fois-là un Parlement bien plus à droite, et une coalition de laquelle seront absents à la fois et les socialistes et évidemment les communistes.
Absolument, affaire à suivre.
Affaire à suivre, Christophe.
Merci, Nathanaël.
À bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.